Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on va passer une magnifique émission, je vous le dis, en ce mercredi soir. Ouais, le pont de l'Ascension, demain, grande journée, vous êtes nombreux sur les routes, donc faites attention et restez bien à l'écoute de Roten sans flamme pendant 2 heures, parce que là, on vous lance le choc de ce soir. Quel choc, quel suspense entre Lens et le Paris Saint-Germain, on va en parler. Bien sûr, dans Roten sans flamme pendant 2 heures. Bon, pas 2 heures sur ce match, hein, je vous le rassure, mais au moins une bonne demi-heure avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va, Benoît?
Ah, ça va super.
Ah ouais, on a.
Grande équipe.
On a atteint. C'est à 21h le match.
Ouais. Ah, étendu.
En 3 heures, on est tendu.
Ah bah oui.
On est tendu. Il y en a un qui est très tendu. Le titre se joue. C'est Soulé Diawara qui est à ma gauche. Salut Soulé.
Salut les gars.
Salut Soulé.
Ça va Soulé?
Très bien. Ça faisait longtemps que je n'étais pas.
Ah bah oui.
Allez, ouais, ouais,
Tu nous as fait faux bon.
Non, pas du tout.
Ça m'a drouillé.
J'ai été bronzé un peu dans le sud.
Et voilà.
T'as bien raison. Il fait beau, profites-en. Parce qu'ici, c'est pas le cas. On est avec Christophe Dugarry. Lui, il a le soleil toute l'année. Ah, salut, oui. Dugas.
Salut les poulets. Bonsoir à tous les copains. Il y a un match aussi avant.
Mais oui, il y a
Brest-Strasbourg
à 19h. Ah,
oui.
Tu sais,
Jérôme,
il parle que du PSG, lui. Il
aurait
qu'il y avait un match avant.
Brest-Strasbourg aussi, là. On a hâte de voir l'issue de ce match.
On vous l'avait dit, les reports n'ont aucune incidence sur le suspense du championnat. Donc ça se confirme.
Va-t-il y avoir la tempête à Brest.
Ouais, exactement.
C'est plus ça. Ouais.
Je suis un peu ému ce soir, Jérôme, parce que on va dévoiler la liste définitive de Roten sélectionneur. Et oui, Jérôme Roten depuis le mois de janvier.
Je suis venu exprès aujourd'hui pour éviter ce truc.
Eh du gars, je te promets.
Pas fini.
Et quand je lui ai demandé le casting à Benoît, il me dit il y a du gars, il y a Soulé. Je dis du gars, vous lui faites ça avec la liste? Non mais sérieux.
C'est la liste finale.
Libérez-moi de ce truc.
Avec une conférence de presse extraordinaire du sélectionneur Jérôme Roten. Il a répondu aux questions incisives des journalistes dans une conférence de presse à retrouver sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, les comptes de Roten sans flamme. Allez-y vite parce que là vous allez vous régaler et on va donc dévoiler cette liste. Je l'ai entre les mains, regarde Soulé. La liste de Jérôme, les 26 joueurs sélectionnés par Jérôme pour filer aux États-Unis, tenter de rappeler.
Pour battre le Sénégal.
Et battre le Sénégal dans le match ouvert.
Il va falloir plus 26 joueurs pour battre le Sénégal.
Ok, on verra. Un grand débat également.
Tu penses que l'arbitre va être pour vous?
Non, on n'a pas besoin d'arbitre, nous.
Ah non, je pensais que tu comptais l'arbitre.
Non,
mais vous allez rester sur le terrain.
Vous allez nous, là, on va rester sur le terrain et là, ça va être un tout petit combat.
Ça, c'est sûr.
Grand débat à 19h. Un peu de politique qui s'invite dans Roten sans flamme. Ce sera Roten se chauffe.
Oula.
Est-ce que Kylian Mbappé a eu raison de prendre position? Interview accordée à Vanity Fair. Elle a été publiée hier. Prise de position contre le Rassemblement National. On verra ce que vous en pensez. On sera avec Bruno Jeudy, éditorialiste BFM TV, qui viendra nous donner son avis et les retentissements dans le monde politique. À 18h45, l'autre actu, c'est l'Olympique de Marseille. On a trouvé le directeur sportif. Désormais, il faut trouver le futur entraîneur. Florent Germain sera avec nous, notre correspondant, pour parler des profils qui se détachent. Deux favoris se dégagent, Bruno Genesio et Christophe Galtier. Puis alors là, attention. Dugas, tu es là parce que ce soir, on va ouvrir ton procès. Ton procès est le procès de tous ceux qui ont osé critiquer la politique sportive du PSG cette saison. Vous avez osé en septembre. Paris aurait dû recruter. C'est incroyable.
Courage.
Voilà. Luis Campos, tu l'avais mis comme ça dans les cordes. Et bien finalement, est-ce que c'est pas lui qui a eu raison? 18h30, grand procès dans Roten sans flamme. Et puis l'événement, vous le savez, au-delà de la Ligue des Champions le 30 mai, ce sera la finale de la Coupe de France Crédit Agricole et RMC. Et très généreux, RMC vous offre 2 places pour la finale entre Lens et l'OGC Nice. Ce sera vendredi 22 mai au Stade de France. Pour jouer, rien de plus simple. Vous envoyez dès maintenant finale par SMS au 732-16. Le tirage au sort sera effectué vendredi. Le vainqueur viendra dans Roten sans flamme à 19h30. Allez, il est 18h04, vous écoutez RMC. Et Jérôme, on est soulagé. Ça y est, le match du titre va se disputer. On est content.
La Ligue de football professionnelle accepte le report du match Lens-PSG.
C'est le match du
titre. Sauf que le titre, il est déjà joué.
C'est parfaitement normal. C'est un droit qu'on a, qui s'est déjà passé dans le football français.
Le PSG, avec 800 millions d'euros de budget, ils peuvent anticiper et avoir une deuxième équipe, voire une troisième équipe.
Je vois pas ça qu'une mauvaise chose par rapport à la saison qui est longue et le fait d'arriver en fin de saison avec le plus de pression.
On va montrer quel type d'équipe nous sommes, quelle est notre ambition.
Nous, de base, on n'est pas d'accord. De base et du haut de la pyramide, on n'est pas d'accord. Ils connaissent aussi le contrainte. On n'a pas à subir cette chose-là.
Le président Labrune, tu t'imagines si ça fait mal voir de Nasser El Khelaïfi, peu cher, ils vont pas pouvoir passer des week-ends à Sérémy ensemble.
C'est pas un coup de baguette magique que tu vas tout changer.
Vraiment, je comprends pas.
Ça reste quand même le premier contre le deuxième, donc c'est avant tout la passion. On va trouver la motivation dans notre passion tous ensemble.
Je pense que c'est une fête pour les footballs français.
Au nord, c'était les colons.
Les colons, il a dit. Il est con.
Et oui, ça y est, on y est. On l'a attendu avec impatience. Le choc de fin de saison de Ligue 1 entre le PSG et Lens, les deux meilleures équipes du championnat face à face. Choc qui aurait dû se dérouler le 11 avril entre les quarts aller et retour de Ligue des Champions pour Paris face à Liverpool. Rappelez-vous la pétition Rotten sans flamme contre le report. La Ligue qui a finalement accédé à la demande des Parisiens contre la volonté des Lensois. Précision qu'il n'y a plus de suspense. Malheureusement, les Parisiens comptent 6 points d'avance sur les Lensois et un avantage de 15 buts au Golavé. Désormais, on a deux clubs qui sont focalisés sur leurs finales respectives, la Coupe de France pour Lens et la Ligue des Champions pour le PSG. Jean Baumel est là, notre correspondant à Lens. Salut Djibo.
Salut Benoît, salut Jean,
on embrasse Pierre Bachelet, bien sûr.
On l'embrasse, bien sûr. Et oui, les corons, on les entendra juste avant la reprise
comme d'habitude.
Début de la deuxième
période. On déduit l'émission.
Non, on déduit l'émission à Fleury Dinalo, d'ailleurs. Légende de l'Olympique.
Déduit. Oui, t'as dit déduit.
On lui dédie l'émission.
Ok, Didier.
Meilleur buteur de l'histoire.
Ok, Didier.
Djibo, est-ce que cette histoire a enfin été digérée à Lens, alors, cette histoire de report?
Bah écoute, au niveau des joueurs du staff de Pierre Sage, de la direction, bien sûr, fallait s'y faire. C'est plus au niveau des supporters que ça n'a pas été digéré. Il faut s'attendre ce soir à certainement des banderoles, des chants contre la Ligue et certainement aussi contre le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'à l'époque, on le parlait ensemble à l'antenne, on salivait à se dire il y aura ce match, il y aura la possibilité d'avoir peut-être un choc qui va peut-être déterminer le futur champion. Et puis ça a été vous l'avez dit, on décalé à aujourd'hui, plus d'un mois après, c'était le 11 avril. Puis juste avant, il y a eu cette claque contre le derby. Donc on a l'impression que c'est un petit peu déréglé les plans de Pierre Sage qui avait un peu fait un programme pour arriver au minimum à un ou deux points du PSG pour ce match important. Aujourd'hui, c'est reparti un mois après. Il n'y a plus de suspense puisqu'il faudrait une catastrophe et on n'y croit absolument pas. Et Pierre Sage, hier, lui, noté surtout, c'est en dehors du sport que ça a fait le plus de bruit.
Pour moi, il n'a pas été pénalisant sportivement parce qu'on ne l'a pas joué. Donc, tant qu'on ne l'a pas joué, on ne peut pas le caractériser comme pénalisant, du coup. Par contre, il a été très pénalisant d'un point de vue politique parce que ça a mis en exergue justement beaucoup de choses dans les décisions, dans le football français notamment. J'ai l'impression qu'il y a des camps qui se sont opposés, encore une fois, comme dans d'autres combats. Mais voilà, ça, c'est des terrains qui ne nous concernent pas. Nous, on a juste à faire le meilleur match possible pour essayer de rivaliser avec la meilleure équipe du monde. Et c'est déjà un chantier assez relevé.
Donc essayer de rivaliser avec le PSG, c'est aussi le sens de Florian Thauvin qui est passé hier en conférence de presse, lui aussi qui attend la liste avec impatience de Didier Deschamps demain soir. Lui forcément, il voit le côté sportif et ça c'est pas un match comme un autre pour lui, c'est un prestige, c'est un plaisir de jouer le PSG.
Si on n'est pas motivé pour jouer contre le PSG, alors qu'on arrête le foot, on n'est plus jamais motivé. Non, c'est un match important puisque même si on connaît plus ou moins déjà ce qui va se passer concernant le classement final. Ça reste quand même le premier contre le deuxième. Donc c'est avant tout la passion. Donc on va trouver la motivation dans notre passion tous ensemble et profiter d'une belle affiche de foot.
Alors pour Lens, c'est le PSG et Lyon. Donc deux matchs pour se préparer pour le grand rendez-vous. Car désormais pour Lens, l'objectif, c'est de remporter sa première finale de Coupe de France. Ça sera la semaine prochaine, le 22 mai, face à Nice au Stade de France.
C'est la une de Rotten sans flamme ce soir. Lens, Paris Saint-Germain. Est-ce que le report a tout changé? 32-16 pour participer au débat avec Jérôme, avec Soulé Diawara, avec Christophe Dugarry. Jérôme.
Oui, le report, il a tout changé. Alors déjà, il nous a changé. Et c'était bien là, dans ce sens-là, qu'on avait mis en place la fameuse pétition qui a beaucoup fait parler d'un côté et de l'autre, tu vois.
Il y a eu quelques coups de fil.
On a retourné le football français avec notre pétition. Moi, je suis devenu depuis, pour certains supporters du PSG, un anti-Paris Saint-Germain, tu vois. On m'a fait passer pour... Alors que la pétition, elle n'était pas contre le Paris Saint-Germain, elle était surtout contre la Ligue. Ouais. Et c'était ça le but, de mettre devant leurs responsabilités nos représentants du football français, c'est-à-dire la Ligue nationale de football, professionnelle de football. Et c'est vrai que quand tu vois que leur décision de reporter, mais pas que les matchs du Paris Saint-Germain, reporter aussi d'autres matchs avant, et même là, le match de Nantes, rappelle-toi, qui concernait aussi le Paris Saint-Germain, si tu veux, ça a un petit peu faussé, en effet, un petit peu beaucoup faussé le classement. Alors, je te dirais que Lens en a profité quand Nantes, le match de Nantes du PSG au mois de février a été reporté pour jouer ce fameux cette double confrontation contre Chelsea. C'était ou Monaco même, je sais plus. C'était soit Monaco, soit Chelsea. Peut-être Monaco même.
Ouais. C'était le barrage, quoi.
Donc non, c'était Chelsea.
Ah, Chelsea.
Et n'empêche, Lens en a profité parce que ces trois points-là, si tu veux, c'était revenu, ils étaient en ligne de mire du Paris Saint-Germain à un point. Rappelle-toi, il y avait du suspense. Et en effet, on était tous là à dire enfin, on va avoir gros match sur Ligue 1 Plus, d'accord. Et encore, c'était même pas sur Ligue 1 Plus, c'était sur Bein, le match qui était.
Il avait été programmé un samedi à 17h.
Génial. En plus, un samedi à 17h, le match du titre, ouais, il valait mieux le jouer. Alors après, non mais excuse-moi, mais ces matchs-là, ces gros matchs, vaut mieux les jouer à 21h,
ouais, sûr,
le dimanche, ou même le samedi soir, au pire. Mais bon, c'était un choix, encore une fois, très surprenant de le placer à 17h un samedi. Et c'est peut-être aussi pour ça que le PSG avait demandé le report de ce match, parce que à 17h, ils estimaient qu'ils n'avaient pas assez de repos entre la double confrontation contre Chelsea. Et donc, une fois que tu as dit ça, une fois que tu as dit qu'ils nous avaient privés de ce match et qu'on a dit des choses, alors des fois, malheureusement, on se trompe. Alors, vaut mieux pas se tromper souvent, parce que sinon, on passe pour des pitres. D'accord? Donc, on a été tous unanimes à dire, ils nous retirent le match, où il y avait un suspense, et en plus de ça, ils vont nous le placer, parce qu'il n'y avait pas le choix, dans le calendrier entre l'avant-dernière et la dernière journée de championnat.
Ce qui n'arrive jamais, normalement.
Ce qui n'arrive jamais. Mais le problème, c'est que, on sait que Lens était sur un fil. Ce que je veux dire, les résultats, on l'a vu, ils étaient pas programmés pour être là, mais c'est magnifique la saison. Plus la Coupe de France qui s'est greffée, ils sont allés jusqu'au bout. Donc ce que je veux dire, c'est que on savait très bien qu'ils allaient perdre des points en reportant ce match-là sur les matchs de championnat qui allaient arriver suite à ce report-là. Et ben comme par hasard, déjà ça leur a coupé les pattes. Parce que 15 jours sans match, ils ont eu 15 jours sans match au bout d'un moment.
Ils avaient joué Rouen en amical, ça avait rendu fou.
Exactement. Sage, donc déjà, tu casses la dynamique de Lens. Le PSG, je suis désolé, et là encore une fois, et ils l'ont compris, les dirigeants, après, et même Luis Campos et tout ça, la fameuse pétition, ils ont compris que c'était contre la Ligue et pas contre le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain l'a montré encore dernièrement. Ils sont habitués à faire tourner entre les matchs de Coupe d'Europe quand ça s'enchaîne.
Ah oui.
Et t'as vu l'équipe qu'il y avait contre Lorient,
oui.
L'équipe qu'il y avait contre Brest.
Oui.
Bon, bah écoute, donc ils sont habitués à faire tourner. Et bah écoute, s'il fallait faire tourner ce match de Lens, ils auraient peut-être moins fait tourner parce qu'en effet, c'était l'affiche. Et à ce moment-là, le titre n'était pas encore joué. Et ça donnait une excitation particulière. Putain, un stade à Bollard, dans une ambiance incroyable, une ferveur incroyable, mais pour n'importe quel joueur de football, même les joueurs du Paris Saint-Germain, en championnat qui s'emmerdent très souvent, parce que franchement, il n'y a pas forcément beaucoup de suspense quand le PSG se déplace sur certains stades et tu vois les résultats, où des fois ils gagnent largement. Mais là, il y avait l'occasion, en effet, de vivre un moment particulier. Bon, bah, tu nous as, et c'est là, et je finis là-dessus, ça nous a donné raison, parce que qu'est-ce qu'on a dit? Ce match, il va être placé, donc là, le 13 mai. Lens, ils vont jouer en claquette parce qu'ils seront sûrs d'être deuxième. Bah, la preuve, c'est le cas. Et le PSG va venir avec peut-être une équipe remodelée parce qu'il va falloir faire souffler en espérant qu'ils soient en finale de la Ligue des Champions.
D'absent côté Paris,
c'est le cas. Non, mais c'est le cas. Et puis, c'est totalement logique. Mais le PSG, ils sont champions déjà. Ouais. Donc, ils se déplacent là avec, oui, bah, tu vas jouer dans une enceinte fantastique. C'est le dernier match, de Lens. Non, c'est le dernier
match à Bollard. C'est le dernier match à Bollard parce qu'ils ont à Lyon.
C'est le dernier match à Bollard. dollars. Donc, à mercredi soir, magnifique.
Aucun intérêt.
Non, mais magnifique. Ils ont réussi. Bravo la Ligue. Bravo. Moi, je vous applaudis encore et je vous félicite. Et merci, merci pour ces décisions qui sont tournées de bon sens. Vraiment, merci. Merci Vincent Labrune et toute sa garde rapprochée.
Est-ce que le report a tout changé, Dugas ?
Non. Tout changé, non. Je pense que le Paris Saint-Germain aurait quand même été champion. Voilà, ça. Moi, je suis assez d'accord avec Pierre Sage. Je trouve que ça a mis en. Une nouvelle fois, malheureusement, en avant les problèmes de direction à la Ligue et tout le reste. Voilà, comment ça va se passer encore l'année prochaine.
Bah oui.
Et c'est ça oppose des clans. Et tant que ce football français ne sera pas pacifié, faudra pas s'étonner que ça parte dans tous les sens et que ce soit du grand n'importe quoi. Que ce soit au niveau des droits télé, que ce soit au niveau des décisions, que ce soit. Voilà, le problème, c'est que on n'arrive pas à régler les problèmes les uns après les autres. Donc. Problème de gouvernance, problème de choix, problème, voilà, il y en a tellement que c'est très compliqué. Après, sincèrement, je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit. Le Paris Saint-Germain est largement au-dessus de toutes les autres équipes. Elle a démontré tout au long de la saison en jouant à par moment à 20 ou 25% de son talent et de son potentiel. Donc voilà, ça nous enlève un plaisir. Voilà. Alors moi, ça va pas tout me gâcher. Ce soir, je suis content de regarder ce match-là. J'ai envie de voir le premier contre le deuxième. J'ai envie de voir comment les Lensois vont se défendre face à ce Paris Saint-Germain là. Après, c'est sûr que quand tu regardes un match et que t'as pas l'intérêt du résultat, bon, mais forcément, c'est moins intéressant, moins passionnant. Je te cache pas que si Paris mène 2-0 au bout de 20 minutes, je te cache pas que je suis pas sûr de continuer à regarder le match ou d'une demi-heure ou si c'est un match moyen ou si je vois que Lens en garde sous la semelle pour pouvoir jouer en Coupe de France la semaine prochaine ou Paris parce que il y a un turnover trop important ou parce qu'ils vont jouer la finale avec des champions dans quelques semaines. Bon. Voilà, je vais voir comment les choses vont se passer, mais je peux zapper parce qu'il n'y a pas d'intérêt sportif jusqu'à la fin où tu peux attendre le score et le résultat qui va t'intéresser.
Et puis Dugas, regarde, non, mais je te pose juste la question parce que c'est moi ça m'a interpellé aussi. T'imagines que tu fais les trophées UNFP où il y a tous les Lensois et tous les Parisiens qui étaient il y a deux jours en train de recevoir un trophée. C'est un bon moyen pour préparer un gros match, en effet.
Mais tout est fait.
C'était pas tous présents. Lucien Riquet n'y était pas, et pas beaucoup de Parisiens.
Ah, pas beaucoup de Parisiens.
Il y avait quelques Parisiens, mais ils n'étaient pas tous là.
Bon, après, en général, c'est toujours à deux journées de la fin.
Oui, mais tu le sais.
C'est entre l'avant-dernière et la dernière.
Tu as raison, mais tu sais, la Ligue, quand ils déplacent à ce moment-là, ils savent qu'il y a les trophées UNFP qui sont le lundi, et que ce match va avoir lieu le mercredi soir. Imagine juste, moi je te le dis, là ils sont sauvés les trophées UNFP parce que Paris est déjà champion et Lens a assuré sa deuxième place. Mais s'il y avait eu un suspense, tu crois qu'ils seraient déplacés le lundi soir au trophée?
Bah voilà. Alors, là où il y a un conflit d'intérêt aussi, Jérôme, c'est que c'est retransmis sur Ligue 1 Plus.
En plus.
Ligue 1 Plus, ils ont intérêt, et là où c'est stupide, ils ont intérêt à avoir le plus de joueurs du Paris Saint-Germain et le plus de joueurs de Lens.
Bah oui.
Quand tu le mets deux jours avant ce match-là, tu sais qu'il n'y aura pas forcément tous les joueurs et le plus de joueurs possible. Donc, c'est en dépit du bon sens. C'est ça qui est
exactement.
Terrible. Alors, sous les. Ouais, ça a tout changé ce report.
Ben moi aussi je suis d'avis avec Dugas où je pense que ça aurait rien changé parce que même nous on avait dit déjà je me rappelle on était à cette émission dès l'instant où le Paris Saint-Germain a reporté ce match a eu gain de cause Paris Saint-Germain allait être champion maintenant je dis pas que si le match avait joué à la date prévue Saint-Étienne, j'allais dire. Lens allait gagner ou pas, mais c'est sûr qu'il y aurait eu plus de suspense parce que nous, en tant que téléspectateurs et spectateurs, on avait envie de ça parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un championnat aussi serré depuis
le PSG challenger quoi.
Exactement.
Voilà. Non, mais après les Lensois, attention, les Lensois ils avaient la possibilité de nous l'offrir ce sujet.
Exactement.
Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait non plus.
D'un côté aussi, ça aurait pu changer parce que à cette époque-là, Lens, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'ils étaient un point ou
un
deux
point.
Points.
Ouais, c'est ça.
Un point. Donc ils auront préféré jouer un PSG qui joue la Ligue des Champions.
C'est
un peu fatigué.
C'est pour ça qu'ils voulaient garder le match.
Exactement. Et c'est à ce moment-là, entre guillemets, Lens a cette possibilité d'aller gagner contre le Paris Saint-Germain à 50%, entre guillemets, encore une fois. Mais là, maintenant, avec ce report, Paris Saint-Germain est en forme.
Je pense que Soulet, là où t'as raison, c'est que les Lensois, le fait d'avoir acté, ils n'avaient pas le choix de toute façon ce report, ça leur a mis un coup.
Moralement.
Mais oui, parce que.
Bien sûr.
Moi, je vais te dire. Ce que je pense, alors après, c'est invérifiable, hein, c'est juste mon avis. Je pense que dans tous les cas, le PSG aura été champion quand même. Ils sont plus forts. Mais malgré tout, ce match-là, il y avait une excitation incroyable. Parce qu'il aurait pu se passer quelque chose.
Ça n'a pas tout changé.
Non, ça n'a pas tout changé. Parce que même si Lens avait fait l'exploit de battre le PSG avec un PSG qui aurait été remodelé.
Je rappelle que le calendrier, c'était pas le même.
J'ai répondu oui. On est dans Rotten sans flamme.
Non, mais il y a d'autres matchs qui avaient été difficiles. On avait parlé notamment contre Monaco. Ils avaient perdu 3-2 alors qu'ils menaient 2-0.
Il y a eu des matchs
contre Lille. Exactement. Il y a eu des passages difficiles. On a beaucoup d'appels au 32-16 sur ce sujet. On va donner la parole à Gokmen qui est avec nous au 32-16, Jérôme.
Gokmen?
Oui.
Salut Gokmen.
Bonsoir.
Salut
Gokmen. Bonsoir les gars.
Sois le bienvenu.
Bah, écoutez, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas regardé le championnat de France depuis quasiment une décennie. Et pour une fois, je me disais, punaise, il y a un match qu'il faut que je regarde.
Eh oui.
C'était Lens PSG. Et ils me l'ont foutu en l'air. Alors bravo la Ligue nationale de football. Ne vous étonnez pas que plus personne ne regarde ce championnat. Ne vous étonnez pas qu'il n'y ait pas d'intérêt. Je ne sais pas si Lens aurait été champion. Mais ils étaient sur une bonne dynamique. Le PSG n'avait pas besoin du report du match. Ils sont au-dessus de l'Europe. Enfin, à un moment donné, il y avait juste besoin d'avoir de l'intérêt pour la fin de saison. Et ils l'ont foutu en l'air. Et en plus, c'est un manque de respect aussi pour Lens. Comment ça s'est passé, la communication qu'il y a eu autour. Mais comment ils peuvent s'étonner que les gens ne regardent plus la Ligue 1? Mais il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner. On a une bande de nuls à la tête de la Ligue 1. Mais qui changent de métier.
Eux vont te répondre, on a aidé le PSG à faire ce parcours en Ligue des Champions.
Mais même quoi. Ça, c'est invérifiable.
C'est invérifiable, déjà d'une. Et puis, vous avez été des pros. Quand tu es sur un rythme, c'est mieux d'être sur un rythme que d'avoir 15 jours de coupure entre
mais je pense que c'est ça qui les entoure, les Lensois, t'as raison.
Le PSG, ils auraient gardé une bonne dynamique. Là, alors là, pourquoi est-ce qu'on reporterait pas le match? Parce qu'il y a la finale de la Ligue des Champions.
Alors comment tu veux faire?
Non mais là.
Mais non mais voilà.
Tu vas mettre la 29e journée après la dernière.
Le report, tu peux le faire chaque semaine, à chaque fois non, que le PSG avait une grande échéance.
Là où t'as raison.
Là il y avait une affiche.
Là où t'as raison, c'est sur la Ligue. La Ligue, ils doivent prendre les responsabilités sur le coup et assumer, si tu veux, le fait que la Ligue 1 retrouve de l'attractivité. Et en effet, que les gens, tu les pousses à regarder. Parce que ce match-là, je pense, aurait fait une très belle audience, dans tous les cas. Et ça sera moins le cas sur ce soir. Ça, c'est une certitude. Après, la deuxième chose, c'est qu'il faut pas tout mélanger. Et c'est, moi, là, c'est pour ça que je redis encore la pétition qu'on a mis en place. Pétition, c'est un grand mot, mais qui a bien fonctionné.
Carton.
En effet, c'était contre la Ligue et pas contre le PSG. Parce que là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que le PSG, en demandant le report du match, ils ont raison de le demander. Ce que je veux dire, il y avait beaucoup de matchs, l'accumulation, on leur avait accepté le report contre Nantes, bien sûr qu'ils allaient demander le report contre Lens. Ça, tu peux le comprendre. Moi, je peux comprendre que Luis Enrique a envie de reposer certains organismes parce que il pousse. Et que si ça n'avait pas été le cas, et il l'a dit, en effet, ça aurait été une équipe bis. Et l'équipe bis du PSG, elle est quand même, c'est normal, elle est moins performante, donc il y avait plus ou moins un suspense qui pouvait se mettre en place. Moi, je reste quand même persuadé que même avec une équipe bis, le PSG était capable d'aller gagner à Lens parce qu'ils ont montré par moment que les jeunes, l'adversité, ils pouvaient augmenter leur niveau.
Oui, mais ils ont montré aussi par moment
qu'ils étaient friables. Et oui, mais
on le saura jamais.
Mais dans tous les cas, moi, je peux comprendre les dirigeants parisiens de demander et pour te répondre sur les joueurs, parce qu'on est passé par là. En effet, cette période-là, pas la période d'avant. Moi, je leur en voulais plus sur le déplacement, le report du match de Nantes, parce que pour moi, c'était une énorme connerie déjà d'avoir demandé ça. Et ça t'a bloqué une date.
Ouais.
Ça t'a obligé donc de la faire entre l'avant-dernière journée et la dernière journée de championnat, le 13 mai, ce match. Si t'avais pas fait sauter le match de PSG Nantes, là, il y avait une autre possibilité de date. Et ça aurait peut-être été mieux pour tout le monde, en effet. Il faut juste reconnaître que le Paris Saint-Germain, quand tu es joueur, et on est passé par là, en effet, quand tu as 6 jours pour préparer 2 matchs de Ligue des Champions, match aller et match retour, en effet,
bah, par moment, tu vois, c'est compliqué de pouvoir enchaîner et le fait de pouvoir souffler, c'est très bien. Et je pense qu'ils l'ont fait pour certains joueurs, ça leur a permis aujourd'hui à certains joueurs de finir en boulet de canon et d'être bien peut-être pour le 30 mai.
Merci à Gokmen qui est venu au 32-16. Merci à Jean Baumel qui sera au commentaire ce soir.
Hein, de bonsoir les amis. Paris Saint-Germain, 21h. Ah, on va se régaler quand même.
Régale-toi.
Bah oui, on va 86e fois de la saison de suite. Non, ça va être un grand moment, mais c'est vrai que on est un peu déçu. On aurait aimé que ça soit fait à la bonne date. Ça nous aurait mis un peu plus de piment.
Il y aura quand même des célébrations parce que c'est le dernier match à domicile.
Il y a toujours du piment quand tu déplaces Gibo. Il y a du piment,
évidemment.
Et on rappelle à 19h coup d'envoi de Brest-Strasbourg, match que Christophe Dugarry attend avec impatience. Justement, dans un instant, on va ouvrir le procès de Duga et de tous ceux qui ont critiqué la politique sportive du Paris Saint-Germain. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h30 sur RMC, on est là, on est bien dans la deuxième demi-heure de Rotten sans flamme de ce mercredi soir avec Soulé Diawara, avec Christophe Dugarry et avec Benoît Boutron. On se régale depuis 18h en votre compagnie. Vous êtes nombreux sur les routes, on vous le redit à chaque fois.
Ouais.
Prenez votre temps, faites attention et surtout restez à l'écoute de Rotten sans flamme. On vous détend puis on vous amène l'expertise du football.
Ah oui.
Ah bah c'est là que ça se passe.
Avec tous les sujets intéressants.
C'est la mission du PAF. T'as vu le casting?
Et magnifique casting qui sera présent à la Coupe du Monde, RMC Radio officielle, Rotten sans flamme, le show de référence, et la liste de Rotten sélectionneurs dans une heure. La liste définitive des surprises.
Ah, Soulet, voulait voir ma liste déjà.
Bah, écoute, on lui a caché.
Dugas aussi.
Dugas trépigne d'impatience, évidemment. Un peu plus.
Ah, Dugas, il m'envoie des textos, il me dit ouais, envoie-moi la liste pour voir.
Je précise également qu'il y a des podcasts additionnels sur la chaîne Rotten sans flamme, notamment ce podcast Légende ou pas légende.
Ah ouais.
On vient de le terminer avec Soulet.
Aujourd'hui, on a fait Dugas. Ah non, c'est pas
non. El Hadji Diouf ce soir, légende ou pas légende de son club, de son pays, du continent africain et du foot mondial. Voilà.
Allez, écoutez ça. Et dans 15 minutes, on reçoit le fraté. Hein.
Flo Germain, ouais. Pour parler du futur coach de l'OM avec deux noms qui se détachent, Genesio et Galtier. Mais tout de suite,
Galette.
Un grand procès.
RMC, Rotten sans flamme.
Élu par l'ensemble des entraîneurs de Ligue 1, le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1, McDonald's, pour la saison 2025-2026, et attribué à Pierre Sage.
Le procès de Rotten sans flamme.
Tu le dis ça?
Ouais.
Ça va pas mieux, hein.
Ouais, il l'a massacré, Pierre Sage.
Soulé, ça le fait pas.
Sans montage, ça?
Ah non, sans montage. Je peux te dire qu'il s'est pas arrêté, hein. Pam! Et ça a été, il s'est lancé, il a dit, allez, vas-y, je m'arrête pas.
C'est 12 secondes de bonheur. À écouter sans modération.
Je sais pas ce qu'il fera après sa carrière d'entraîneur, mais par contre, à mon avis, il fera pas des meetings, hein.
Ah bah écoute, on verra. C'est un sacré meneur d'homme quand même, tu vois.
Oui, meneur d'homme, ouais, très bon. Bien.
Non mais
alors du gars.
Après, c'est pas cool de lui avoir mis deux phrases quand même quand il a ouvert l'enveloppe.
C'était compliqué. Allez,
non mais ouais, mais que Pierre Sage.
On le salue, on espère qu'il sera très bon demain sur TF1 à 20h pour sa liste définitive.
Arrête de rigoler, Soulet, c'est ton coach.
Alors le PSG, parlons du Paris Saint-Germain.
On sait qu'il parlait comme ça avant, Soulet, à l'époque, pareil, non?
J'ai pas le souvenir.
Non mais hey, du gars, je te jure,
la pression, il y a la Coupe du Monde qui arrive.
Moi, la pression, Dédé, il a la pression. La pression de quoi? Il a tout gagné.
Il veut toujours plus, tu le sais mieux que moi, non?
Alors ce procès, parce que là on a peu de temps et c'est un procès très intéressant, le procès donc de tous ceux qui ont critiqué la politique sportive du PSG cette saison. C'était la grande interrogation. Ils ont osé voilà. Faire ça. Ouais. Souvenez-vous, on en parle depuis le mois de septembre et la venue de Luis Campos dans Rotten.
Quand ils ont fait ça m'a déchiré le cœur.
Paris qui n'a recruté que deux joueurs l'été dernier, Zabarni et Chevalier. Un troisième est arrivé cet hiver, c'est Drou Fernandez, le jeune en provenance du Barça. Paris est là où il voulait être avec le titre de Ligue 1 qui va être décroché a priori ce soir, la finale de Ligue des Champions, la deuxième d'affilée pour le PSG le 30 mai face à Arsenal à Budapest. Allons-y, ce PSG n'a pas écrasé la Ligue 1 mais Paris a profité du championnat pour faire tourner toute la saison. Ouvrons donc ce procès parce que l'un des accusés c'est Christophe Dugarry. Il va donc se défendre, il sera son propre avocat. Bonsoir.
Bonsoir.
On a deux procureurs ce soir. Jérôme Rotten, bonsoir.
Ouais. Bonsoir, et Soulé
et
violent.
Diawara,
violent,
bonsoir,
très
bonsoir.
Violent.
Ah ouais. Et Christophe, supporter du PSG, va rendre son verdict au 32-16. Salut Christophe.
Bonsoir Christophe.
Sois le bienvenu.
Merci.
Bienvenue, Toff.
Jérôme, vas-y, souviens-toi, toute la saison, on s'est posé la question, est-ce que Paris a bien fait de ne pas recruter, notamment sur des joueurs de champ? Et finalement, les faits, pour l'instant, donnent raison aux dirigeants parisiens.
Ben, en fait, je me souviens quand Luis Campos, il est venu nous expliquer sa stratégie. Non, mais c'est vrai. Il nous a expliqué, moi, je suis content du recrutement. C'est vrai qu'il y a beaucoup du gars, d'autres. Bon, pas que du gars. Là, il est
bon,
là.
Nous tous, on peut tous se mettre dedans.
Non, mais il y en a beaucoup qui ont. Et on dit non.
J'ai souvenir que toi aussi un peu, un peu indécis. Hein.
Écoute, non. Alors moi, je vais te dire, j'ai toujours défendu, et j'assume. Et des fois, je dis des conneries aussi. Et j'ai toujours défendu ce projet il y a 3 ans, quand Luis Enrique est arrivé et qu'ils ont décidé en effet de mettre des plus jeunes parce que c'était une politique. Complètement à l'opposé de ce qui se faisait avec des stars et des stars et des stars, et je trouve que il y avait beaucoup de bon sens à faire ça. Après quand tu prends des jeunes comme ça et beaucoup de jeunes, il faut pas se tromper sur le profil et sur les progressions qui peuvent être amenées à faire en très peu de temps au Paris Saint-Germain dans un club comme le PSG, et puis surtout gérer cette pression au Paris Saint-Germain, jouer au Parc des Princes, c'est pas donné à tout le monde, même des joueurs de qualité n'ont pas forcément réussi au PSG. Là, une fois que tu as dit ça et que tu as des interrogations là-dessus, il fallait laisser le temps. En effet, le PSG a vite grandi sur la première année, champion de France, Coupe de France gagnée et demi-finale de Ligue des Champions. Mais ça n'a pas empêché certains de continuer à douter en disant ah, ceci,
oui, mais là, concentrons-nous sur l'été dernier.
Mais c'est pour ça. Et en fait,
ça va être long, la plaidoirie.
L'année dernière, c'est passé comme ça, avec ce titre de champion. Et en effet, moi, je pense que quand tu gagnes au bout de 2 ans la Ligue des Champions, et ils étaient pas programmés au départ pour gagner au bout de 2 ans la Ligue des Champions, ils voulaient se laisser un peu plus de temps. Bah, il est en prix, elle est tombée là, ils ont créé une machine de guerre l'année dernière, et c'est normal qu'ils soient champions d'Europe. Quand tu passes le mercato d'été à te dire, bon, écoute, est-ce qu'il faut rafraîchir cet effectif? Est-ce qu'il faut continuer avec la politique, c'est-à-dire faire grandir des jeunes, leur donner du temps de jeu comme ils l'ont fait quand même l'année dernière? Et l'année dernière, je répète, ils ont été champions d'Europe avec cet effectif-là. Bah, c'est difficile de dire, oh bah non, bah écoute, on va recruter des joueurs pour permettre à Kvaratskhelia, à Dembélé de souffler, Hakimi. Ou au milieu de terrain de souffler Hakimi. Oui, mais sauf que ils ont raison sur toute la ligne. Et moi, c'est ce que je disais l'année dernière, Zaïre Emery, il a quasiment pas joué, il était remplaçant du remplaçant. Cette année, où il s'est développé, où il a repris confiance, c'est au poste de latéral droit. Et ça, c'est pour moi, Luis Enrique qui a tout compris. Il fallait lui faire confiance, en effet. Et comme au milieu de terrain, où tout le monde a dit oui, mais ils n'ont pas recruté au milieu de terrain. Et moi, je disais, j'étais dans le sens de Luis Campos aussi, en disant, mais oui, mais si tu recrutes un milieu de terrain, Mayulu, il va moins jouer. Tu vois, des joueurs comme ça, le petit Ndiaye, il va moins jouer. Alors Mbaye, il a pas beaucoup joué, mais quand même, si tu lui rapportes des joueurs avec un peu plus d'expérience, forcément ces jeunes-là, ils vont pas jouer. Et puis après, il y a eu la surprise. Allez. Je dis pas, j'étais très surpris, mais Luis Enrique les connaît mieux que quiconque. La surprise Beraldo, milieu de terrain. Donc pour lui, en fait, comme ils sont défendus, tous les postes sont doublés. Et aujourd'hui, en doublant les postes, avec toutes les blessures qu'il y a eu aussi, parce qu'il y a ça, l'impact que ça a pu avoir sur le début de saison, et on l'a dit, ça a amené des performances moyennes, mais ça a donné aussi la possibilité à certains joueurs, jeunes joueurs, de continuer leur progression. Njantou, c'est pareil, il s'est blessé, mais il a joué.
Allez, soulé.
Bon.
Vas-y,
ouais, soulé.
Luis Enrique, quand il est arrivé, il avait déjà parlé d'aller chercher les jeunes du centre de formation, qu'il allait se servir des jeunes du centre de formation. Première année, il a mis une équipe en place où il y avait pas mal de nouveaux, et ça s'est super bien passé puisqu'ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions. Deuxième année, il est vainqueur de la Ligue des Champions, il gagne tout sur son passage. Et cette année, il avait dit dès le départ qu'il n'allait pas faire de recrutement parce qu'il avait pas mal de bons joueurs au centre de formation. Il est dans sa continuité. Nous, le problème, c'est que dès qu'il y a un mercato, on est obligé de vouloir acheter. Lui, il connaît son effectif, il le connaît par cœur. Il savait que il n'avait pas besoin de d'autres joueurs. Il avait son centre de formation. Il avait des jeunes joueurs qui allaient progresser, notamment Zaïre Emery, Mayulu, Ibrahima Mbaye. Tout ça, il avait déjà prévu ça. Mais nous, le problème, c'est que on voulait des résultats tout de suite. Lui, il a été très patient. Il a fait comme il a voulu.
Bon.
Et là, on peut rien lui dire. On ne peut rien lui dire puisque encore, il est champion de France. Il va sûrement gagner encore la Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu ne peux rien lui reprocher depuis
Pissoulet, juste pour finir, les seuls investissements. Les seuls investissements où ils ont quand même beaucoup investi sur Zabarni et sur Chevalier, c'est peut-être les deux qui ont du mal à s'adapter.
Ben oui, joue pas pour
Alors,
parole à la défense, Christophe Dugarry.
Non, mais j'ai pas l'impression d'avoir commis un crime de lèse-majesté en disant.
Non, ça c'est sûr.
Au mois de cet hiver, quand le Paris Saint-Germain montrait qu'il était friable, alors il y avait beaucoup d'explications, la fatigue, la Coupe du Monde, tout ça, en disant que je pense que avec des joueurs en plus, il aurait pu avoir un meilleur turnover. Moi, m'expliquer que Mayolou il a joué, que Mba il a joué, que N'Gentou ils ont joué, ouais, ils ont joué, mais est-ce que t'as l'impression qu'ils ont progressé? Pas du tout. On leur a donné un peu de temps de jeu. Moi, je crois.
Mayolou il a pas progressé.
J'ai pas l'impression qu'il ait franchi un cap plus que ça. Moi, j'ai surtout l'impression que le Paris Saint-Germain a eu le flair de connaître parfaitement la Ligue 1 et de savoir que avec le niveau de leurs joueurs, avec le budget qu'ils ont, avec la différence de talent qu'il y a entre toutes les équipes de Ligue 1 et celui du Paris Saint-Germain, ils ont la possibilité de jouer en faisant un turnover maximal, en faisant Kvaratskhelia le meilleur joueur de la Ligue des Champions qui joue à 20-25% en Ligue 1, titularisé seulement 9 fois Dembélé en Ligue 1, se passer de Fabian Ruiz pendant 3 ou 4 mois,
Marquinhos qui joue jamais en Ligue 1.
Non mais c'est dire aujourd'hui le flair qu'ont eu les dirigeants parisiens, c'est de se dire mais pour gagner la Ligue 1, on n'a même pas besoin de jouer tous les matchs à fond. Ils ont même pas besoin, le Paris Saint-Germain, de faire 40 matchs de haut niveau. Ils font 20 matchs de haut niveau, ça suffit largement pour gagner la Ligue 1. Et après, ils peuvent se permettre de faire un turnover. Alors c'est vrai que peut-être qu'à ce moment-là, on n'a pas senti. L'effet me donne tort. J'ai eu tort sur cette situation-là. Mais je crois surtout que le Paris Saint-Germain a parfaitement analysé la situation et a bénéficié d'une Ligue 1 qui est tellement, tellement faible une nouvelle fois et qui est tellement à la portée facile du Paris Saint-Germain qu'ils ont juste besoin de jouer un petit peu. Je revois encore la composition d'équipe à Brest où ils vont gagner facilement. Je voyais des turnovers incroyables avec des joueurs qui n'ont pas joué ou qui ont joué. Quand je vois la saison de Kvaratskhelia, quand je vois aujourd'hui le meilleur buteur du Paris Saint-Germain, je crois qu'il est à 10 ou 11 buts dans la saison. Donc c'est dire si le niveau du Paris Saint-Germain est tellement, tellement, tellement au-dessus que c'est vrai que malheureusement
10 buts d'Mbélé, ouais.
Ils n'ont même pas besoin de recruter. Et s'il y avait un championnat peut-être un petit peu plus ardu, un petit peu plus difficile, ils auraient été obligés de recruter. Et je rappelle juste une chose, c'est que peut-être que si le Paris Saint-Germain avait recruté et avait eu la possibilité de mettre un turnover de meilleure qualité, peut-être qu'ils auraient aussi gagné la Coupe de France. Ils auraient peut-être pu faire le triplé. On n'en sait rien.
Et ils sont sortis dès les 16e de finale à domicile.
Exactement.
Face au Paris FC.
Exactement.
Alors le verdict de Christophe au 32-16. Christophe, qui remporte ce procès?
Bonsoir.
Alors salut. Du coup, je suis un peu mitigé.
Ah.
D'un côté, moi j'étais aussi partie prenante du fait que j'aurais bien aimé qu'ils recrutent. Parce que quand même, si vous regardez la saison, ils vont peut-être que gagner le championnat cette année. Parce que la Coupe d'Europe, c'est pas fait. Ils n'ont pas gagné la Coupe de France. Contre Marseille, ils auraient pu perdre. Et je pense que c'est.
Ils ont le plus petit nombre de points. Ils vont être champions avec le plus petit nombre de points.
Ça, c'est vrai.
Peut-être à égalité avec Lens, parce que s'ils perdent ce soir contre Lens et contre le Paris FC et que Lens gagne ces deux matchs, ils sont pareils.
Donc,
et je pense que s'il y avait quand même eu 2-3 joueurs en plus, surtout qu'avec tous les blessés et tout, ça aurait pas été trop mal. Et surtout que. Alors, je suis partie prenante du fait que les jeunes, c'est très bien. Pareil, on était avant à dire qu'on leur laissait pas leur chance. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils n'ont pas spécialement progressé cette année, que ça soit Mayulu ou
Zaire Emery.
Ils n'étaient pas. Mais limite, il aurait pu être nommé à la
UNFP. Christophe,
il
faut que tu tranches.
Là, Totoff, là où t'as raison,
c'est mon pote Jérôme, c'est pas grave.
Écoute, on est là.
C'est un fan en plus, donc il y a pas de.
C'est une famille. Écoute, en fait, ce que je veux te dire, c'est que là où t'as pas totalement tort, il y a des joueurs qui ont pas montré forcément beaucoup de progrès. Mayulu, moi, il m'a déçu cette année.
Ouais,
Mayulu, j'attendais qu'il continue, en effet.
Ah,
et
quand même.
Non, mais moi je te le dis. Après, ça n'empêche que tu recrutes Dugarry.
Beraldo en numéro 6, ne me dites pas que c'est l'idée du siècle, Beraldo.
Oui, mais d'accord,
6,
mais
il faut y aller, les gars. Regarde,
en fait, là où je comprends leur stratégie, c'est que si tu recrutes des joueurs qui peut-être vont arriver l'année prochaine, parce que ces joueurs-là, peut-être qu'ils vont ouvrir la porte à un départ. Regarde Kangin Lee. Kanginli, moi, ce que je disais l'année dernière, Kanginli, il était remplaçant du remplaçant l'année dernière. Cette année, il a un peu plus joué parce que les joueurs se sont blessés et surtout parce qu'il a été intéressant. Mais est-ce que Kanginli, l'année prochaine, il va continuer?
On verra ce que
donc, s'ils ouvrent la porte, ils vont recruter.
D'ailleurs, tous les dossiers sont bloqués jusqu'à la finale de la Ligue des Champions.
Peut-être que Mayulu, il aura envie de s'inscrire dans la durée et de
gagner du temps de jeu. Allez, Christophe, les Totof.
Allez, merci Totof.
Totof, qui gagne?
Ah, c'est moi.
Duga.
Oh, victoire de Christophe Dugarry qui s'est parfaitement défendu.
Merci Christophe.
Et tu rappelles quand tu veux pour parler du PSG.
Franchement, et avec un prénom dégueulasse comme ça, tu le fais.
Allez, dans un instant, allô Jérôme, Florent Germain avec nous pour parler du futur coach de l'OM. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. On continue les débats avec Soulé Diawara, avec Christophe Dugarry et avec Benoît Boutron après 19h. Benoît, on va
parler politique. Est-ce que Kylian Mbappé a raison de prendre position? Oula, je vais y arriver.
Oula.
Roten se chauffe, on sera avec Nicolas Pelletier qui va tout nous expliquer, cette interview à Vanity Fair. Et Bruno Jeudy, éditorialiste BFM TV, qui sera avec nous pour donner son avis et nous parler des...
L'émission va prendre de la hauteur. Là.
Exact. Des rebondissements politiques à toute cette affaire.
On va pas trop nous entendre là-dessus.
Mais tout de suite, pour votre plus grand plaisir à tous les trois, on retourne à Marseille.
RMC, Roten sans flamme.
Ce que j'ai aujourd'hui, c'est mérite. J'ai rien volé, on me l'a donné et je le mérite. Si demain je veux encore un plus gros salaire, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Mais tout ce que j'ai aujourd'hui, je le mérite et je suis très content d'être sous contrat jusqu'en 2027.
Allô Jérôme.
Faites ça juste pour chauffer du gars. Arrêtez un peu la régie, c'est fou. Ce sera donc la mission prioritaire de Grégory Lorenzi à l'OM, le dossier du futur entraîneur. On rappelle que Lorenzi va s'engager dans les prochains jours avec Marseille. C'est Florent Germain qui nous a donné cette info hier. Il est avec nous. Salut Flo.
Salut Benoît. Salut à tous. Salut Jérôme et du gars.
Flo, complément d'information aujourd'hui parce que l'OM cible a priori avant tout un entraîneur français.
Exactement.
Et on a deux noms qui se détachent. Bruno Genesio, qui est actuellement à Lille et qui arrive en fin de contrat. Et Christophe Galtier, qui lui est en Arabie Saoudite.
Exactement. Un coach français, pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il y a une volonté globalement d'apaiser l'atmosphère, de simplifier les choses, que tout soit plus fluide, plus clair, plus facile en termes de communication également. Donc c'est le souhait prioritaire des dirigeants. Un coach français, les deux noms, Galtier, Genesio, ce sont des dossiers sur lesquels il y a quand même beaucoup de discrétion. Et on le comprend cette semaine parce que déjà Grégory Lorenzi, il n'est pas encore officiellement directeur sportif. Il y a une saison à finir. L'OM peut accrocher la Ligue Europa. Lille est troisième, il joue gros avec Genesio. Donc on comprend qu'il y a que ça bosse plus en coulisses qu'autre chose. Concernant Genesio, on précise qu'il est en fin de contrat au mois de juin avec Lille, qu'il a des relations complexes, on le sait, avec Olivier Létang. Il a soif d'un nouveau projet et il fait partie des coachs à Marseille en interne qui ont vraiment la cote parce qu'il maîtrise la Ligue 1, parce qu'il a cette expérience, ce calme. Il sait valoriser aussi des jeunes. Donc, si son départ se confirmait de Lille, il deviendra vraiment là où l'une des deux pistes sérieuses avec Christophe Galtier qui est une option crédible. C'est pas la première fois qu'il est cité, même si son passage au PSG avait un peu agacé les supporters. Je pense que de l'eau a coulé sous les ponts. Il a souvent dit qu'entraîner le club de sa ville ne se refuserait pas, même s'il sera vigilant sur les ambitions qu'aura l'OM malgré les moyens financiers un peu réduits.
Flo, à l'instant T, on peut pas dire qu'il y a un des deux dossiers qui est plus avancé que l'autre.
Non.
Okay.
Non, je pense pas, mais Genesio à la côte.
Ok. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux noms pour l'OM, Jérôme?
Écoute, en fait, l'entraîneur, c'est, il doit retrouver, du moins le poste d'entraîneur doit retrouver du calme à Marseille. Je pensais l'inverse l'année dernière. C'est pour ça que là, on parlait du PSG où en effet, des fois, tu vas dans le sens d'un projet, ça te donne raison et tu le maintiens, et, contrairement aux critiques. Mais à Marseille, par exemple, je me suis planté. Parce que moi, je pensais qu'il fallait un entraîneur qui ressemble un petit peu à l'ADN du club.
Un Deserbi, quoi.
Oui, un Deserbi avec Mehdi Benatia, directeur sportif, qui connaît, voilà, un peu sanguin et tout ça.
Ouais, et c'était trop à mon.
Mais oui. Et en fait, tu vois, Soulé, ça m'a donné tort. Parce que ils se sont plantés sur toute la ligne et trop d'excitation tue l'excitation, d'accord. Donc en fait,
rappelle-toi, De Zerbi nous avait même dit qu'on le critiquait parce qu'il était italien.
Oui, sortir, non, c'est fou.
Souviens-toi, vous êtes dur avec moi parce que je suis italien. Elle était bonne celle-là.
C'est vrai. Non mais c'est vrai.
Ça devenait la paranoïa.
De Marseille, il y a que des Italiens là-bas.
Mais non, attention, parce que Bruno Genesio a dit qu'il était le souffre-douleur des entraîneurs de Ligue 1.
Aussi.
Oui, alors.
Écoute, après, à côté de ça, Bruno Genesio, il a quand même cette image un petit peu de gros nounours, tu vois. Alors, bien sûr que des fois, il a fait quelques punchlines quand ça l'énerve. Je pense que là, il en fera un peu plus s'il arrive entraîneur de Marseille, parce que la pression, elle est complètement différente de
tous les... Tu préfères Genesio à Galtier pour l'OM ?
Oui, parce que je pense que Galtier, c'est la facilité. Attention, c'est pas ce que je dis. Il est marseillais. Il a tout connu, tous les postes à Marseille jusqu'à là, sauf le poste de numéro 1. Il a été adjoint d'Alain Perrin. Mmh. Il a été joueur à l'OM.
Et lui, il est sous contrat en Arabie Saoudite.
Hein, oui, et puis déjà, il est sous contrat. C'est pas facile. Et puis encore une fois, je te dis pas, c'est pas une mauvaise idée, hein. Parce que apparemment il y en a plein qui militent pour que Christophe Galtier arrive.
Eric Dimeco,
mais d'autres, j'en ai entendu d'autres. Par contre, Genesio, si tu veux, il a ce côté où déjà il a beaucoup vadrouillé, il a beaucoup d'expérience et il a ce calme
à Lyon,
qui, pour moi, peut être complété avec le calme de Greg Lorenzi. Quand tu l'entends parler, Greg Lorenzi, même si, attention, le poste de directeur sportif à Marseille, c'est pas celui de Brest. Lui aussi, la pression de prendre des joueurs et de pas se tromper, il l'aura un peu plus à Marseille qu'il l'a eu à Brest, mais il aura d'autres moyens aussi. Donc peut-être
toi, que plutôt
le duo peut être bien. Et puis le président, moi j'ai hâte de l'entendre un peu plus, parce qu'il a fait une sortie, mais quand officiellement il sera président de l'OM, j'ai hâte de l'entendre, parce que je pense que ce trio-là, avec l'entraîneur, Genesio, tu vois, ça peut être complémentaire et
il
ramener un peu...
Il ne sera pas interventionniste, en tout cas, dans le domaine
exactement.
Sportif.
Exactement. Ouais.
Dugas,
ça change. Et ça, c'est pas mal.
Quel est le nom qui te plaît le plus, alors
Écoute, moi, je suis pro-Genesio, sans aucun problème. J'apprécie son travail, j'aime le personnage, j'aime beaucoup de choses chez Genesio. Maintenant, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est justement de voir Genesio, ces dernières semaines, se plaindre. Moi, les entraîneurs en Ligue 1 qui se plaignent, ça m'agace, je te le dis, je te le redis. Moi, j'ai avec deux Herbi qui se plaignaient, qu'on le critique parce qu'il est italien. Ça a été Abibay qui se plaint parce qu'on met pas son rôle avant son nom de famille. Genesio qui se plaignait que la presse était trop dure pour lui. Excuse-moi, entraîneur, joueur de foot, c'est le plus beau métier du monde. Donc que t'es critiqué, que t'es jugé, qu'on dise que tu fais du boulot, ça fait partie du boulot. Quoi qu'il se passe, quand tu vas encore plus à l'OM, tu vas être critiqué. Si t'arrives là-bas pour faire l'unanimité, tu ne la feras jamais. Alors moi, je trouve aussi bien d'arrêter de prendre un entraîneur fada, un entraîneur qui ressemble un peu à ses supporters, un entraîneur calme, un entraîneur serein, qui arrive pas avec des certitudes, parce que t'es jamais sûr de rien en football, il faut garder toujours un petit peu cette retenue, mais avec le sourire, avec le plaisir d'être là, et arrêter de se battre contre les médias, arrêter de penser que le métier qu'ils font, c'est un métier difficile, que tout le monde est contre eux, la paranoïa. J'en ai marre de cette paranoïa des entraîneurs et des joueurs de foot. Voilà, moi ça me fatigue. Quand t'as une chance aussi incroyable de d'entraîner l'OM, Lille, ou de jouer au foot, ou de faire des choses, de vivre de ta passion, comme c'est... Punaise, mais mettez-moi le sourire à l'entraînement, conférence de presse, on les connaît, les règles du jeu. Quand t'arrives en conférence de presse, eh bien, si tu gagnes, tu fais le coq. Eh bien, si tu perds, eh bien, tu te trouves des circonstances, ces deux machins, mais tu gardes le sourire, tu gardes une attitude, tu t'étais le capitaine du bateau, tu montres quelque chose de fort. Moi, j'en ai assez, et je te cache pas, même si je suis un pro Genesio, ce qu'il a fait la dernière fois quand il s'est plaint du traitement des médias, ça m'a pas plu.
T'as pas plu, ouais.
Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, je m'en fiche une nouvelle fois. Je le redis, les états d'âme des uns et des autres dans un sport collectif, encore plus dans un capitaine de navire, on s'en tape. Voilà. Bon. Si t'as besoin de te plaindre, si t'as besoin de ci, de là, tu le fais en fin de saison, t'écris un livre, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux. Mais t'es là, en conférence de presse, t'es le patron du bateau, tu te plains pas. Voilà. Moi, à un moment donné, je suis agacé de ça. Donc, moi, si c'est pour avoir un Genesio serein, tranquille, sûr de lui, apaisé, tu vois. Mais c'est une façade, c'est quelque chose que tu montres. Mais j'ai pas envie de voir un entraîneur qui arrive avec toutes ses fragilités.
Ça va être que comme ça, tu sais comment ça va se passer. Dans la saison, il va y avoir une période creuse, et c'est là qu'on va montrer que si c'est vraiment...
Tu préfères lequel des deux, toi, Soulé, alors?
Et c'est là que tu vas montrer que t'es solide, pas tes fragilités. Moi, je m'en fiche de ça.
Soulé, tu préfères Genesio ou Galtier?
Moi, j'aime les deux. J'aime Galet parce que je le connais déjà, parce que j'ai eu la chance aussi...
Moi, je préfère Galtier aussi.
De travailler avec lui.
Genesio, avec lui à Marseille quand il est adjoint.
Après, vous n'avez pas peur, les tickets de pro-parisien, tu vois, avec Galet?
Bon, après, ça, c'est l'histoire du supporter, ça. Tu sais, après, dès qu'il y a des résultats, t'inquiète pas, on oublie vite l'étiquette de supporter. Il y a combien de joueurs du Paris Saint-Germain qui est venu jouer au PSG et à l'OM? Et à l'OM,
oui, bon, c'est pas toujours des réussites.
Oui, mais il y a eu des réussites
après,
quand même.
Après, tu vas me dire, ça n'a pas été une réussite au PSG.
Après,
donc ça lui laisse
Genesio est très estampillé lyonnais aussi. Hein,
après, bon. Après, ce que j'aime aussi chez Genesio aussi, c'est son calme. Parce que ces derniers temps, à Marseille, il y a eu trop, Duga, tu l'as bien dit, trop d'entraîneurs, des passionnés qui sont toujours dans l'exagération, dans
Tudor,
le folie, tout ça.
Gattuso, Marcelino,
qui que tu prennes, il faudra par contre revenir avec beaucoup d'humilité.
Ah bah, ça sera le cas.
Voilà, on ne commence pas à dire on va rivaliser dans les déclarations des autres, on va rivaliser avec Paris. L'objectif, c'est si l'objectif.
Mais c'est ça, donc il faut un entraîneur un peu. Il faut de la tranquillité, il faut un peu de calme un peu.
C'est vrai que le dernier Marcelino, ça a bien fonctionné.
C'est un mauvais exemple. Bon, merci à Flo Germain qui est venu nous donner ses infos. Merci Flo. On reste à l'affût sur ce dossier. Et dans un instant, on ouvre notre dossier politique dans Rotten sans flamme. Rotten se chauffe. Mbappé a-t-il eu raison de prendre
la
position?
Là, on prend la hauteur. 16.
À tout de suite sur RMC.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.